Deuxième temps en ce mercredi de notre semaine consacrée à la préparation des bacs blancs d'histoire. Aujourd'hui, l'Europe et son projet politique. Je vous rappelle le principe de ces quatre émissions sur le bac d'histoire, cette saison, donc dans la Fabrique de l'Histoire, un documentaire sonore, un portrait en l'occurrence de 20 minutes, concocté par Séverine Yattard et Françoise Camard, comme une sorte d'encadré dans un manuel d'histoire, puis une composition par un professeur de lycée discutée par ses élèves. L'application du principe au thème de ce matin, c'est-à-dire de l'Europe, un portrait de Simone Veil au moment de son élection à la présidence du Parlement européen en 1979, ça sera jusqu'environ 9h30 dans cette émission, et puis ensuite Thomas Perel, professeur d'histoire-géographie à l'ENC Blomé à Paris, développera une composition autour du projet politique de l'Europe depuis 1992, et il sera questionné pour finir par quelques-uns et quelques-unes de ses élèves de Terminal S.
Voici le résultat du scrutin.
Juillet 1979.
Ont obtenu Monsieur Amendola, 47 voix. Madame Veil, 192 voix.
Madame Veil, as présidente du Conseil Europa Parlement,
a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
À l'Assemblée de Strasbourg, c'était exactement à 21h30. L'annonce officielle de l'élection de Madame Veil, faite par la doyenne de l'Assemblée, Madame Louise Weiss, était aussitôt interrompue par un tonnerre d'applaudissements.
Je félicite Madame Veil de son élection, j'adresse les meilleurs vœux pour l'exercice de son mandat et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel. Madame le Président.
Simone Veil donne une vraie visibilité au Parlement européen. Alors, visibilité qui est issue, bien sûr, de cette élection au suffrage universel direct, mais aussi par l'action qu'elle va mener en tant que présidente. Elle va voyager beaucoup, se faire ce porte-parole du Parlement européen, recevoir aussi des personnalités à la tribune du Parlement européen.
Mesdames, messieurs, pouvez-vous asseoir.
Et elle va réussir à incarner ce premier Parlement européen élu. Donc, à ce niveau-là, effectivement, elle permet au Parlement européen d'exploser un petit peu sur la scène européenne et internationale, lui qui était très en retrait par rapport à la Commission et au Conseil auparavant.
Je déclare ouverte la séance solennelle du Parlement européen. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, c'est un très grand honneur que vous m'avez fait en m'appelant à la présidence du Parlement européen. Aussi, l'émotion qui est la mienne, en prenant place à ce fauteuil, est-elle plus profonde que je ne le saurais l'exprimer. Avant toute autre chose, je souhaite en remercier toutes celles et tous ceux d'entre vous qui ont porté leur suffrage sur mon nom. Je m'efforcerai d'être le président conforme à leurs vœux. Je m'efforcerai aussi, conformément à l'esprit de la démocratie, d'être le président de toute l'Assemblée.
C'est un petit peu une histoire cyclique, la construction européenne. Des premiers succès au départ, dès 1951 avec le traité de Paris qui crée la CECA. Tout de suite une phase de ralentissement ensuite avec l'échec de l'armée européenne, puis une relance, les traités de Rome, etc. Donc à la fin des années 70, le contexte est plutôt favorable avec justement ce moment fort que représentent ces élections au suffrage universel direct du Parlement européen, une assemblée européenne qui jusque-là n'était pas élue au suffrage universel direct, donc bien sûr, mais qui existait déjà en tant qu'assemblée parlementaire puis Parlement européen, qui n'avait pas de pouvoir très étendu. Elle avait un rôle symbolique, un rôle consultatif, cette assemblée parlementaire européenne jusque-là. Et elle était assez peu mise en lumière par rapport à la Commission européenne ou au Conseil de l'Union européenne.
Et ça, Mauve Carbonel, cette décision de faire un suffrage universel concernant la présidence du Parlement, c'est une décision qui va se prendre assez facilement. C'est une manière, évidemment, de donner plus de pouvoir, hein, on l'aura compris, à ce fameux Parlement.
C'est le résultat d'un processus de plusieurs années qui a permis d'en arriver là. Mais il faut savoir qu'au départ, ça ne change pas fondamentalement les pouvoirs qui lui sont attribués. Cela viendra avec les années, dans les années 80-90 surtout. Mais par contre, cette élection va conférer au Parlement européen une autorité nouvelle. C'est à partir de là que commence un lent chemin vers des pouvoirs de plus en plus étendus, hein, face aux autres institutions communautaires dans le triangle institutionnel, hein, comme il est nommé, face aux autres institutions que sont Conseil et Commission.
Que représente pour vous cette élection un succès personnel ou une victoire politique ce soir ?
Bon, écoutez, je n'ai pas vraiment, me suis pas beaucoup posé la question. Je ne pense pas à une victoire ni à un succès. Je pense plutôt à ce que ça représente comme responsabilité.
Est-ce que le fait d'être une femme est pour vous un handicap ou un avantage ?
Je veux dire que dans ma vie, pendant longtemps, le fait d'être une femme a été plutôt un handicap. Et qu'ensuite, j'aurais très mauvaise grâce de continuer à le dire, parce qu'en réalité, je n'aurais pas été ministre si je n'avais pas été une femme. En ce qui concerne cette présidence, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est certainement le fait d'être une femme qui m'a entraînée dans la vie politique. Alors, si je suis consciente que la plupart des femmes, très grande majorité, sont encore handicapées du fait qu'elles sont des femmes, ça n'a pas été vrai pour moi ces dernières années. Mais je souhaite que pour les autres femmes, ce ne soit pas, même si elles arrivent dans les mêmes conditions, c'est-à-dire parce qu'on a besoin d'une femme, mais que ce soit tout normalement les femmes qui ont exactement les mêmes possibilités que les hommes.
Pourquoi cette figure de la politique française, Simone Veil, va devenir le symbole européen, Mauve Carbonel?
Il faut se pencher un petit peu sur le parcours de Simone Veil pour bien comprendre à quel point sa vie est symbolique de l'histoire mouvementée du XXe siècle européen. Simone Veil a grandi dans une famille plutôt bourgeoise, française, de confession juive. Comme l'ensemble de la communauté juive de France, elle a été touchée par les années de guerre. Elle-même a été déportée à 17 ans en 44 avec une partie de sa famille. Donc elle est internée à Auschwitz et survit au système concentrationnaire nazi, alors que ses parents et son frère n'en reviennent pas. À son retour en France, donc, elle commence des études de droit à Paris, est diplômée, elle entame une carrière de magistrate et politiquement, elle se rapproche des centristes. Son fait d'arme majeur sur le plan national est la loi sur l'IVG, hein, depuis nommée loi Veil d'ailleurs.
En 1974.
Qui dépénalise l'avortement. Et cet épisode la met en lumière, hein, et elle devient déjà un symbole, non pas européen à ce moment-là, mais aussi un symbole en ce qui concerne le droit des femmes. Et j'en viens à l'Europe. Hein. Le parti du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, propose Simone Veil comme tête de liste UDF aux élections européennes, ses premières élections au suffrage universel direct en 1979. Et Valéry Giscard d'Estaing l'aperçoit ainsi aussi comme un symbole européen. Il ne retient pas que effectivement ce symbole de droit des femmes, mais symbole européen de par le passé que je viens de rappeler, hein, passé par les affres de la guerre, par les camps, elle est revenue en France, elle est acquise à la réconciliation européenne. Donc elle est un symbole de ce renouveau européen, de la réconciliation franco-allemande, de la possibilité de travailler ensemble, hein, pour l'avenir dans une assemblée où députés français et allemands envisageront un futur commun européen. Et aussi d'un symbole d'un rapport apaisé, hein, au passé européen douloureux.
Il y a des élections européennes, mais il n'y a pas de parti européen. Donc chaque pays va nommer des candidats en référence en fait aux partis nationaux.
Oui, alors, il n'y a pas de parti européen propre. Ce qui est intéressant dans le Parlement européen aussi, c'est son organisation interne, qu'il a été libre d'ailleurs de choisir. Le Parlement européen se constitue de groupes parlementaires qui se réunissent non pas en fonction d'un parti européen, comme on l'a dit, mais de familles politiques, familles idéologiques. Par exemple, les centristes, au moment de l'élection de Simone Veil, sont regroupés autour du groupe libéral, alors que les gaullistes se sont tournés vers différents groupes parlementaires et aujourd'hui sont affiliés au PPE, Parti populaire européen. Voilà l'organisation interne du Parlement européen qui ne répond pas aux logiques nationales.
Alors pourtant, au moment de ces élections européennes en France, en 79, donc Simone Veil représente l'UDF, hein, mm-hmm. François Mitterrand en tête de liste, le PS émergé, hein, précisons qu'il n'est pas encore président de la République, évidemment, Georges Marchais, le PC, il y a les écologistes, il y a Arlette Laguiller pour lutte ouvrière, et puis alors je crois qu'il y a quand même à droite, il y a Jacques Chirac, le RPR, qui ne soutient pas la candidature de Simone Veil.
Non, alors c'est vrai que il faut se replonger dans ces années-là pour bien voir qu'il y avait deux listes bien distinctes entre l'UDF et le RPR qui ne font pas liste commune aux européennes à ce moment-là. Plus tard, ils feront liste commune en 1984, 89, 94 si je ne me trompe pas. Et c'est d'ailleurs des dissensions importantes sur le fond. Hein. Simone Veil le dit elle-même, elle se sent assez éloignée des conceptions européennes de Jacques Chirac à cette époque-là. Et les tensions politiques entre les deux partis sur le plan français, sur le plan bien national, là pour le coup, vont avoir des répercussions puisque le mandat de la présidente et du président du Parlement européen est de 3 ans, hein, il est renouvelable et lors de l'élection à la présidence du Parlement européen de 1982, Simone Veil se représente et n'est pas élue en raison de ces dissensions et du non-soutien, on va dire, des gaullistes à sa candidature.
Et donc justement, Mauve Carbonel, alors quelle était la position du RPR par rapport à l'Europe et celle de l'UDF, par exemple, au moment de ces élections de 79?
Il est vrai que le RPR est donc l'héritier des conceptions gaullistes de l'Europe. Une vision gaulliste basée sur l'Europe des nations, sur l'ancienne grandeur de la France, sur une Europe des nations qui s'accorderait, non pas dans une fédération à venir, mais plutôt dans une éventuelle confédération, mais en tout cas sur un mode de coopération. Hein, c'est important, alors que la famille centriste est héritière d'une tradition beaucoup plus européiste, hein, avec le MRP des années 50, le parti de Robert Schuman, qui, lui, prenait une construction européenne beaucoup plus intégrée et qui aboutirait à une éventuelle fédération, à une union politique qui a beaucoup plus de force, évidemment, pour le projet européen que la vision gaulliste. Donc, une séparation très nette entre ces deux conceptions de l'Europe et... Il est intéressant de voir dans la liste de Simone Veil des héritiers justement de cette tradition européiste centriste que sont Pierre Fimelin et Jean-Luc Canuet, par exemple, des membres du anciennement MRP.
Juillet 1979.
Le Parlement européen, tel qu'il a siégé, tel surtout qu'il a travaillé depuis la création de la première communauté européenne du charbon et de l'acier, et en particulier depuis la constitution de l'Assemblée unique des communautés en 1958, a joué dès l'origine un rôle important, mais aussi un rôle croissant dans la construction de l'Europe. Quelle que soit l'innovation profonde que représente son élection au suffrage universel direct, notre Assemblée est d'abord l'héritière des assemblées parlementaires qui l'ont précédée. Elle s'inscrit dans le droit fil du sillon tracé par tous ceux qui ont siégé sur ces bancs depuis une génération, depuis que l'idée européenne et le principe démocratique se sont rencontrés.
Καλησπέρα και χρόνια σας πολλά, κύριε Σκητήριο.
On sait qu'en 80, l'Europe va s'ouvrir à la Grèce, à Mauve Carbonel. En 79, on ne l'a pas dit, mais il y a 9 pays membres. Il y a également le Portugal et l'Espagne qui demandent à entrer dans l'Europe. Et puis, il y a la question aussi de l'agriculture qui pose problème, justement, pour cette ouverture européenne plus large, notamment en pays comme l'Espagne et le Portugal.
Effectivement, dès la fin des années 70, la construction européenne vit des changements forts en termes de perspectives d'élargissement, avec, dans les années 70, la chute des dictatures franquistes et du régime de Salazar au Portugal. Ces deux États entament des transitions démocratiques qui vont les tourner très rapidement vers la CE de l'époque pour les bénéfices économiques qu'elle représente, mais aussi pour le retour démocratique que l'intégration dans la CE représenterait. Donc leurs candidatures se font assez rapidement, de même que celle de la Grèce, qui a, elle aussi, entamé un processus de retour démocratique suite à la dictature des colonels. Donc ces trois pays du sud, du sud de l'Europe, qui intègrent assez rapidement, finalement, la communauté européenne, en ayant des caractéristiques bien différentes de l'Europe des 6, voire de l'Europe des 9 également, puisque ces pays du Sud arrivent avec une économie beaucoup moins développée, un PIB moins important, une agriculture peu moderne qu'il va falloir justement soutenir dans le cadre de ce qu'est un des piliers de la CE à ce moment-là, qui est la politique agricole commune. Cela signifie des craintes aussi de la part de la France notamment, qui bénéficie depuis le départ énormément de cette politique agricole commune et qui voit avec inquiétude sur certains points arriver ces pays du Sud. Mais en l'occurrence, par exemple, Valéry Giscard d'Estaing, qui est à l'origine, qui était à l'époque, président de la République au moment de ses candidatures du Sud et de candidature de la Grèce, balaye aussi ses considérations économiques pour y voir aussi un symbole de la Grèce, berceau de la démocratie, qui va intégrer la communauté européenne. Donc finalement, on passe un peu rapidement sur les problèmes économiques que cela pourrait engendrer.
Le second défi fondamental, c'est celui de la liberté. Sur la carte du monde, les frontières du totalitarisme se sont étendues si largement que les îlots de la liberté sont cernés par ces régimes où règne la force. Notre Europe est l'un de ces îlots. Et il faut se réjouir qu'au groupe des pays de liberté qui la composent soient venus se joindre la Grèce, l'Espagne et le Portugal aux vocations aussi anciennes que les nôtres. La communauté sera heureuse de les accueillir. La dimension européenne paraît, là encore, de nature à renforcer cette liberté dont le prix, trop souvent, ne se mesure que lorsqu'on l'a perdue.
Simone Veil fait aussi allusion dans son discours à la question de la politique monétaire. Parce que ça, c'est un point important, évidemment, pour la construction européenne. Et c'est Valéry Giscard d'Estaing, du coup, qui a relancé avec Helmut Schmidt cette question de l'Europe monétaire.
Alors, l'Europe monétaire est effectivement un sujet qui est venu régulièrement sur le tapis de la construction européenne, de par des nécessités de conjoncture économique et monétaire. Au début des années 70, la crise monétaire internationale, ainsi que les crises économiques qui commencent avec les chocs pétroliers, mettent à jour la difficulté de ne pas avoir d'unité économique et monétaire alors qu'on est en Europe, dans cette communauté européenne, en train de créer un marché commun de plus en plus intégré. Donc effectivement, la fin des années 70, des tentatives ont lieu, le serpent monétaire européen, puis le système monétaire européen, des tentatives en tout cas qui seront finalement des échecs, puisqu'elles n'aboutiront pas à une politique monétaire commune. Par contre, ces tentatives des années 70 posent les bases de la réflexion sur l'unité monétaire qui sera reprise à son compte ensuite, dans les années 80, relancée par la Commission de l'or, avec le rapport de l'or de 89, qui va aboutir au traité de Maastricht et donc à... la création de la monnaie européenne, l'euro.
À partir de, oui, des années 70, en fait, on parle, c'est l'écu, en fait. Hein.
Voilà, l'écu n'est pas une monnaie européenne, c'est un panier hein, qui regroupe les différentes monnaies, qui n'est pas une monnaie d'échange, qui n'a pas de réalité fiduciaire.
Notre Europe doit être également l'Europe de l'indépendance. Non qu'il lui faille affirmer une indépendance agressive et conflictuelle, mais parce qu'il est essentiel qu'elle puisse déterminer les conditions de son développement de manière autonome. Cette recherche s'impose avec une particulière clarté dans le domaine monétaire comme dans celui de l'énergie.
Est-ce qu'elle fait là, selon vous, allusion aussi justement à la relation de l'Europe avec les États-Unis? Enfin, c'était dès le début de la construction européenne, c'était une des menaces pour les États-Unis que l'Europe se construise.
Oui et non, puisque les États-Unis appuient au départ la construction de l'unité occidentale de l'Europe. Hein, il faut se replacer dans un contexte de guerre froide, avec une influence américaine sur l'Ouest, une influence, plus qu'une influence, une tutelle soviétique à l'Est. Et donc, les États-Unis ont fortement appuyé financièrement et politiquement l'unité européenne en ses débuts. Mais presque, on peut dire qu'ils ont été dépassés par ce qu'ils avaient appuyé au départ. Hein. L'unité européenne s'est développée, hein. Les communautés européennes se sont renforcées, elles ont donné naissance à une entité économique puissante, dans un contexte qui plus est de 30 glorieuses, avec une force nouvelle, et petit à petit s'est dessiné, hein, même lentement, hein, quand même un projet politique à cette unité européenne. Donc effectivement, la question de l'indépendance de l'Europe, hein, on vit toujours sur les séquelles de la Seconde Guerre mondiale, quelque part, avec une Europe qui s'est reconstruite avec un appui américain. Et comment trouver un équilibre dans les équilibres géopolitiques mondiaux, c'est une question centrale que de nombreux responsables politiques nationaux et européens ont en tête depuis le départ de la construction européenne.
Madame Simone Veil als die eerste presidentin vom eerst direkt gewählten Parlament, dat merin ohne etwas kein Person von der Giscard d'Estaing zu hun aus Lützburger Sicht bedauern.
C'est un moment fort, hein, l'accès d'une femme à la présidence du Parlement européen. Hein, on a vu ce symbole européen de par son parcours, par son action, mais également un symbole, et pas que symbole, une réalité dans la place qu'elle occupe dans l'histoire des femmes en politique. Hein. Elle est donc cette première femme à occuper la présidence du Parlement européen élu, donc première femme, mais première présidente tout court, puisque en 79 il n'y a pas de président de Parlement européen élu. Mais en plus, si on élargit un petit peu le sujet, elle est la première à ce niveau de responsabilité européenne. La construction européenne, mais l'histoire politique du XXe siècle plus généralement, est souvent une histoire d'hommes, et rares sont les femmes au poste de pouvoir. Même dans les institutions européennes, pourrait-on dire, puisqu'elles sont connues pour défendre l'égalité, voire la parité. Mais il faut savoir, dans l'histoire de la construction européenne, c'est tout à fait à l'image de ce qui se passe dans l'histoire politique nationale, très peu de femmes arrivent au plus haut niveau de responsabilité. Par exemple, si je compare avec la Commission européenne, il faut attendre 1989, hein, et la Commission Delors numéro 2, pour voir les premières femmes commissaires. La grecque Vassos Papandréou et la française Christiane Scrivener. Donc jusque-là, que ce soit dans le collège de la haute autorité de la CECA dans les années 50, la commission de la CEE ensuite, aucune femme n'avait été nommée à ce type de poste. Alors plus tard, il y aura plus de femmes à la commission et également une autre femme, Nicole Fontaine, à la présidence du Parlement européen, là c'est en 99.
En tous les cas, Simone Veil, qui a plutôt apprécié cette position et le travail qu'elle a fait au Parlement, ne se représente pas en 1982, Maud Carbonel.
Oui, en fait, c'est là le problème. Elle retire sa candidature parce que lors de l'élection du nouveau président du Parlement européen, la présidence dure 3 ans au Parlement européen, le nouveau vote qui a lieu ne lui permet pas d'être élue à cause des divisions françaises et en particulier du manque de soutien de part de la droite française et du camp gaulliste.
Un socialiste hollandais à la tête du Parlement de Strasbourg, Piet Dankert, c'est son nom, à 48 ans.
20 janvier 1982.
C'est un professeur d'histoire. Au dernier tour du scrutin, il l'a finalement remporté sur son rival allemand, un démocrate chrétien.
Je crois que Mme Simone Veil a fait un travail formidable en donnant à ce Parlement une présence dans le monde, une présence en Europe.
Mauve Carbonel, prise de son Alain Joubert, mixage Claude Niort, archives du Parlement européen et pour finir, hymne européen, l'ode à la joie.
Une amistad manifeste, par exemple.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Et vous êtes dans une semaine de la fabrique de l'histoire commencée hier autour de la préparation du bac d'histoire, le bac blanc d'histoire, avec 4 émissions. Sachez qu'évidemment, d'autres émissions de France Culture font le même exercice avec leur discipline, à savoir les émissions de sciences à 16h tous les jours sur France Culture et également dans un instant, dans une demi-heure, et les nouveaux chemins de la connaissance à propos de la philosophie. Nous sommes avec une classe de l'ENC Blomé, donc, et son professeur, une classe de terminale S, Thomas Perel. Bonjour Thomas Perel.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Et vous allez donc composer, puisque c'est ça, travailler autour de faire le point sur le chapitre consacré donc pour les terminales S à cette question de l'Europe, un chapitre qui est plus court que les chapitres pour les terminales ES et L, puisque il commence à la Seconde Guerre mondiale, je crois, pour les terminales ES et L, et pour les terminales les terminales S, c'est à partir de 1992. C'est ça, la question européenne depuis 1992.
C'est ça, il y a une vraie différence entre les deux, entre les trois filières. Le programme de la série S est plus limité puisqu'on commence en effet en 1992 avec le traité de Maastricht. Donc on est vraiment sur une histoire immédiate de la construction européenne. Alors que le programme des séries ES et L commence en 1948 avec le congrès de La Haye.
Alors vous allez vous raccrocher à cette longue histoire néanmoins, parce qu'il faut aussi se raccrocher quand on commence en 1992 à ce qui a précédé, et on a évoqué cela dans le documentaire préparé par Séverine Yattard. Bonjour Séverine, vous êtes avec nous, et avec également Françoise Camard qui l'a réalisé, donc en évoquant à la fois le cas de Simone Veil, sa présidence au Parlement européen, mais également tout ce qui avait précédé et les pères de l'Europe entre autres.
C'est ça. C'est vrai que Simone Veil, juste un petit point, c'est un personnage qui est fabuleux pour le programme d'histoire des terminales en règle générale, puisque on la retrouve dans plusieurs chapitres. Elle est réutilisée aussi dans, je pense, au chapitre sur les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, où elle témoigne de son expérience dans les camps et aussi des difficultés que les témoins ont à faire part de leur expérience au retour. Et on la retrouve, alors moins en OS, puisque son mandat était terminé en 1992, mais on la retrouve quand même pour les programmes de la série ES et L. Un petit point, il est nécessaire en effet de faire un petit point quand même sur les prémices de la construction européenne en 1948 avec le congrès de La Haye. Le congrès de La Haye a un objectif et a une ambition, on va dire, fédéraliste dans la construction européenne. C'est un idéal qui va être abandonné à quelques années plus tard, mais c'est une ambition, cette ambition fédéraliste, on la retrouve notamment dans la création de la communauté économique du charbon et de l'acier, après la déclaration Schuman en 1950. Et les institutions créées par la CECA sont des institutions supranationales, c'est-à-dire que les États délèguent une partie de leur souveraineté. Je m'arrête justement sur ces notions-là, supranationalité, fédéraliste, unioniste, c'est des notions clés du chapitre, que ce soit pour les ES et pour les L.
Qu'il faut donc maîtriser quand
qu'il faut maîtriser, absolument. Bien connaître ces définitions. Que signifie fédéraliste? Qu'est-ce que c'est que ce terme pas forcément facile à comprendre pour les élèves. On pourrait le résumer sur l'idée que donc c'est une Europe supranationale. Les décisions des institutions européennes sont au-dessus des États et ces institutions peuvent imposer leurs décisions aux États. D'un autre côté, on a une autre conception de l'Europe qui est l'idée d'une Europe des États. C'est ce qu'on appelle aussi la conception unioniste, mm-hmm. c'est-à-dire une Europe où il s'agit plutôt d'une coopération intergouvernementale et les États conservent leur souveraineté. Finalement, c'est généralement tenu par des États qui refusent d'abandonner une quelconque souveraineté. Et on voit que l'Europe se construit toujours d'une certaine façon dans ce compromis entre...
Cet aller-retour entre les deux positions.
Aller-retour entre les deux positions, compromis entre unionistes et fédéralistes. On tente de contenter tout le monde, en quelque sorte.
Et, donc il y a une partie des institutions, à un moment donné, qui sont plus fédérales, enfin qui tendent vers le fédéralisme, et d'autres parties d'institutions qui tendent plutôt vers la question de la coopération et de l'unionisme. C'est ce que vous voulez dire.
Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'au moment de la création de la communauté économique européenne, à la suite du traité de Rome en 1957, l'Europe s'oriente vers une coopération économique et une intégration économique, et les institutions qui sont créées à ce moment-là, les institutions, voilà, sont le reflet de cette séparation. On pourrait le faire diviser en deux. On a le Conseil de l'Union européenne, le Conseil des ministres, qui prend notamment les règlements, les directives, qui lui représenterait plutôt les intérêts des États.
De la même façon, plutôt tendance unioniste.
De même pour le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, qui définit, lui, les priorités de la construction européenne. On est plutôt, là aussi, sur une tendance unioniste. Et à l'inverse, on pourrait dire la tendance fédéraliste, la défense des intérêts de l'Europe ou des Européens, c'est la Commission européenne qui fait des propositions législatives au Conseil des ministres, qui veille à l'application des traités. Et là, on est vraiment sur des commissaires qui ont la possibilité quand même d'imposer des choix aux États. Et puis, il y a le Parlement européen qui, là, avait un rôle à l'origine essentiellement consultatif, mais son rôle a été renforcé au fur et à mesure des traités, parce que la construction européenne, c'est aussi ça, c'est des traités successifs qui viennent sans arrêt renforcer le rôle des institutions et finalement élargir le champ d'action.
Ce que vous nous dites, Thomas Perel, c'est que, en fait, ce chapitre est un chapitre qui navigue entre le politique, et l'histoire institutionnelle aussi, et puis peut-être aussi une sorte d'histoire culturelle, pour culturelle de la politique, pourrait-on dire, ou des idées politiques, entre des tendances qui, dans chaque pays, tirent plutôt dans un sens ou dans le sens contraire. C'est ce que vous voulez dire, Thomas Perel ?
C'est tout à fait ça, en fonction aussi des circonstances plus large de la situation internationale.
Économique aussi.
Économique aussi, tout à fait. Donc, une lente progression et une politique de compromis entre ces deux tendances. Aussi, respecter le souhait de chacun des États de l'Union. Donc, ce qui explique, c'est pas si facile pour les élèves de terminale d'appréhender
une construction
et avec... Voilà, tous ces éléments extérieurs qui viennent influencer la construction européenne.
D'autant que c'est assez austère, c'est vrai, toutes ces institutions qui sont changeantes, qui parfois dominent les unes, les autres. Enfin, c'est même pour nous, à la limite, c'est vrai que c'est, on sait le peu d'intérêt que suscite souvent la question européenne dans l'opinion publique.
On reviendra sur cette question en effet à la fin, sur les difficultés de l'Europe s'imposer dans l'opinion publique. Et pour les élèves, c'est vrai qu'il faut absolument, au fur et à mesure des traités, réussir à, c'est des questions très pratiques en préparation du bac, bien se référer à des petits schémas qui reprennent les institutions européennes, parce qu'elles évoluent sans arrêt. Et on a besoin de ces repères pour construire un bon devoir au bac.
Donc, une fois qu'on a maîtrisé les notions essentielles, selon vous, de fédéralisme, d'unionisme, les prémices de la construction européenne, comment avance-t-on dans ce chapitre autour, justement, de la question de la construction européenne, du projet européen, depuis soit 1948, soit 1992, selon qu'on est en ES et en L, ou en S?
Alors, on va partir sur la période plus récente, depuis 1992. Il faut aussi bien maîtriser les étapes différentes de la construction. Les étapes différentes de la construction, il y a évidemment le traité de Maastricht de 1992 qui va construire une union politique et économique. C'est la naissance de l'Union européenne qui remplace la communauté économique européenne. Et le traité de Maastricht, repose sur trois piliers. Trois piliers toujours autour du compromis unioniste et fédéraliste. Le premier pilier, c'est le pilier communautaire. Qui est davantage un pilier économique, qui établit le marché unique et la création de la monnaie unique, de l'euro. Là, une fois encore, ça nécessite un transfert de souveraineté pour les nations, transfert de souveraineté autour de la question de la monnaie. Les deux autres piliers, c'est la création de la politique extérieure de sécurité commune. Le troisième pilier, la coopération, une coopération policière et judiciaire. Là, de nouveau, c'est plutôt des aspects liée aux unionistes, puisque la procédure, ce sont essentiellement des procédures de coopération intergouvernementale, sans aucun transfert de souveraineté. Le traité de Maastricht, c'est aussi synonyme de prérogatives renforcées pour le Parlement européen, puisqu'on intègre la procédure de codécision avec la Commission et le Conseil de l'Union européenne. Maastricht, c'est important pour la gouvernance économique, la gouvernance européenne. Donc, pour cet aspect économique, la monnaie unique, l'euro, qui rentre en vigueur en 1999 uniquement dans les marchés financiers, va être mise en circulation en 2002 et le traité fixe les critères de convergence qui permettent donc aux États d'intégrer la monnaie unique. C'est parmi les critères de convergence, on a le fait de maîtriser le déficit budgétaire qui doit être contenu à 3% du PIB ou encore de limiter la dette publique à 60% du PIB par an. Et surtout, voilà l'élément important, c'est que les États vont abandonner un attribut emblématique de la souveraineté, un attribut emblématique du pouvoir, c'est la question de la régulation de la monnaie. Mmh. La politique monétaire est entre les mains de la Banque Centrale Européenne. La gouvernance économique, la coordination économique, elle est exercée par, et cette fois-ci on est plus de l'autre côté, par le Conseil européen, l'Eurogroupe et le Conseil des ministres de l'économie et des finances. Donc voilà, là, c'est encore une fois une forme d'intergouvernementalité dans la politique économique.
Alors, ça veut dire que dans ce chapitre, est-ce qu'on évoque les tensions dès la naissance, justement, de cette Union européenne, les tensions à l'intérieur de chacun des pays européens, les façons de valider, par exemple, cet accord de Maastricht, soit par référendum, soit d'autres manières, et les débats qu'il y a pu y avoir dans certains pays, en France en particulier, autour de cette question-là. Est-ce qu'on a le temps d'évoquer cela dans une copie, par exemple ?
Alors, clairement, pour un programme de Terminal S, ça fait partie des questions un peu complexes, et en plus, le temps est assez limité, c'est un chapitre de fin d'année, donc ça va toujours assez vite, le temps se compresse, et ça ne fait pas partie des attentes du programme pour les élèves de terminale.
On peut juste mentionner qu'il y a eu des débats.
Par contre, cette notion que l'Europe ne fait pas consensus dans les pays européens, il est clairement important de le mentionner.
D'accord.
Cette idée que, et ça vient dans la lignée du traité de Maastricht, si vous voulez. Le traité de Maastricht crée une citoyenneté européenne. L'idée, c'est de faire naître ce sentiment européen dans les populations des États membres. On essaye d'européaniser un peu les populations du continent européen. Et on va voir que cet objectif du traité de Maastricht n'est pas forcément rempli, que l'euroscepticisme est important dans les États de l'Union, que ce soit en France, mais on le voit aussi plus récemment en Espagne, au Portugal, en Grèce.
Et dès le départ en Angleterre aussi, il y a le cas anglais qui est un petit peu...
Et il y a le cas particulier de l'Angleterre. Alors là, ce qui est difficile pour les élèves, c'est qu'on est dans du plus que contemporain, c'est vraiment de l'actualité. Le référendum qui aura lieu en Angleterre sur la sortie ou non de l'Union, il est difficile de se prononcer dessus. Mmh. Mais c'est un exemple intéressant pour noter les difficultés que l'Europe a à s'imposer dans les opinions publiques.
Alors, quand on a fait ce développement sur le traité lui-même, Maastricht, à la fois son ambition et les oppositions qu'il peut rencontrer, on va où dans cette copie, justement, autour de la question du projet de l'Europe depuis 1992 pour les terminales Est, Thomas Perel?
Alors, il va falloir aussi aborder de manière indispensable la question de l'élargissement et des élargissements successifs, puisque 92, traité de Maastricht, et très vite, 1995, le passage de l'Europe des 12 à l'Europe des 15, puis 2004, 15 à 25, et là c'est un grand pas franchi par l'Europe, essentiellement des pays de l'ancien bloc communiste, on y rajoute Malte et Chypre, puis après 2007 c'est la Bulgarie et la Roumanie, 2013 la Croatie, et ces élargissements successifs font que l'Europe est d'une certaine façon un peu paralysée par ses anciennes institutions. La gouvernance manque d'efficacité et il est donc nécessaire à ce moment-là renforcer les prérogatives de l'Europe, renforcer les pouvoirs de l'Europe. D'où le retour de l'idée d'une Europe supranationale, fédéraliste, qui pourrait avoir le pouvoir de s'imposer.
Et l'idée d'un nouveau traité.
Et l'idée d'un nouveau traité, tout à fait. Un nouveau traité avec des améliorations, des traités successifs, c'est le traité d'Amsterdam 97, le traité de Nice, et en fin de compte, dans le traité d'Amsterdam et de Nice, on prévoit aussi l'idée de projet constitutionnel projet constitutionnel qui est proposé aux Français en 2005. Et face au nom des Français, au nom des Pays-Bas aussi, c'est le traité de Lisbonne qui apparaît en 2007. Et dans le traité de Lisbonne de 2007...
Et alors là, à cette occasion-là, est-ce qu'en 2005, on évoque dans la copie justement le fait que des pays refusent la proposition plutôt fédéraliste, entre guillemets, proposée par les dirigeants qui se sont rassemblés et l'Europe autour de cette question d'une évolution des traités européens et d'une constitution européenne.
Alors, il y a deux possibilités. C'est-à-dire, dans la copie, on va pouvoir je partirais plutôt sur un plan qui proposerait et qui indiquerait au début les étapes de la construction européenne avec ses enjeux, où on évoque très rapidement... la nécessité du traité de Lisbonne parce qu'il y a eu l'échec du projet constitutionnel. Et puis, dans un second temps, une deuxième partie, on verrait peut-être les difficultés actuelles de l'Europe, le fait que l'Europe rencontre donc des difficultés, qu'il y a un débat important pour les populations de l'Union européenne, dans les opinions publiques. Et à ce moment-là, on reviendrait peut-être un peu plus sur l'euroscepticisme et le mal qu'a l'Union européenne de s'imposer.
Est-ce qu'il pourrait tomber un sujet du type, je dis un peu n'importe quoi, je ne suis pas concepteur de sujet pour le bac, mais du type volonté de construction, volonté fédérale de l'Europe et résistance, par exemple, qui pourrait tomber dans un cadre de sujet du bac, ou est-ce que c'est trop complexe pour pouvoir le construire comme cela ?
Je pense que c'est clairement un peu complexe pour les élèves. Les sujets du bac, traditionnellement, depuis les dernières années, sont vraiment assez basiques, reprennent en quelque sorte les intitulés de chapitres. Donc là, ce serait tout simplement la gouvernance européenne depuis 1992. On peut imaginer plutôt des sujets assez
chronologiques en plus.
Et assez chronologiques. Ouais.
Donc si on continue à partir de cette question du référendum, de son échec, puis ensuite du traité de Lisbonne en 2007, on arrive à quoi, Thomas Perel ?
Alors le traité de Lisbonne, l'ambition du traité de Lisbonne, c'est de renforcer la gouvernance européenne. Donc on va donner plus de pouvoir au Parlement et aussi plus de pouvoir aux citoyens. On crée le droit d'initiative citoyenne, sur laquelle je vais revenir justement après, sur l'idée... L'Union européenne doit intégrer les citoyens, c'est un peu ce qui lui est reproché. On va aussi faciliter les décisions, puisque au sein du Conseil européen, la majorité qualifiée est étendue à plus de domaines. Au sein du Conseil européen, très rapidement deux mots là-dessus, il y a deux modes de décision, majorité qualifiée ou unanimité. Et la majorité qualifiée nécessite, alors j'ai plus tout à fait les quotas en tête, il me semble que c'est plus de 60% des États membres qui doivent se prononcer favorablement. C'est pas forcément évident d'atteindre ce niveau-là, mais c'est nettement plus simple que l'unanimité. Et donc l'unanimité avec le traité de Lisbonne est limitée à la politique étrangère, à la fiscalité et aux politiques sociales. En plus de ça, le traité de Lisbonne prévoit la création du président du Conseil européen et d'un haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. L'idée là, c'est de donner aussi une visibilité internationale un peu plus importante à l'Europe. On verra plus tard que ça n'a pas forcément, c'est pas forcément une très grande réussite parce que les personnalités qui sont à la tête de ces institutions ne sont pas particulièrement connues des Européens.
Catherine Ashton, la première représentante de la politique étrangère, par exemple.
Là aujourd'hui, c'est
Monsieur Van Rompuy comme président du Conseil européen.
Mais là, on a peut-être les plus connus. Donald Tusk aujourd'hui ne fait pas partie des grandes figures dont on entend parler souvent, et Federica Mogherini, l'Italienne, non plus ne fait pas partie des grandes personnalités de l'Union européenne.
Alors avançons, je ne vais pas vous presser, en l'occurrence Thomas Perel, mais avançons, puisque nous arrivons bientôt au terme de cette émission, dans cette question de la construction de ce projet européen, de ses difficultés, de ses évolutions.
Alors pour dire deux mots sur les enjeux actuels de la gouvernance européenne, on est sur un format qui est tout à fait original, avec une cohabitation permanente entre la méthode communautaire et la méthode intergouvernementale. Et on est aussi face à une Europe à géométrie variable, puisque certains États refusent de participer à certains programmes communs. C'est le cas du Royaume-Uni, c'est le cas du Danemark pour l'euro. C'est ce qu'on appelle la procédure de désengagement, qui permet à certains États de sortir et de se soustraire à certaines règles. Et à certaines directives.
Est-ce que, par exemple, on peut mentionner les résistances au traité de Schengen récentes dans sa copie, la volonté de certains d'en sortir, ou en tout cas de construire des murs internes qui mettent un terme, pourrait-on dire, à la libre circulation supposée des citoyens à l'intérieur de la communauté de l'Union européenne ?
On peut tout à fait évoquer ces questions-là dans ces copies, en sachant que c'est quand même un sujet qui peut être polémique sur certains aspects. En conclusion, une ouverture, rappelant les difficultés très contemporaines contemporaine de l'Europe autour de ces questions, ça me paraît tout à fait judicieux. Dernier point, c'est la question de l'implication des citoyens dans la gouvernance, puisque c'est un des aspects de la gouvernance, c'est quelle est la place pour les citoyens, quelle est la place du peuple. Le traité de Maastricht qui a institué cette citoyenneté européenne avait cet objectif, comme je disais tout à l'heure, d'européaniser un petit peu les populations. On reprochait à l'Europe son déficit démocratique. L'Europe, l'Union européenne, était imposée par le haut et les citoyens n'étaient pas suffisamment consultés. C'est un des enjeux hein, du traité de Maastricht et puis après du traité de Lisbonne. Et on s'aperçoit que finalement, aujourd'hui, il y a quand même une défiance importante de la population européenne à l'égard de ces institutions. Comme en témoignent donc les mouvements d'opposition à l'Europe, en Espagne, au Portugal, en Grèce, la question du non au référendum en France, où 54% des Français avaient refusé le traité constitutionnel, et la question aussi de la faible participation des citoyens européens aux élections européennes, 42% de participation lors des dernières élections, c'est les faibles taux de participation aux élections en France. Signe que l'Union européenne
a du mal,
mobilise peu les populations et a du mal à être intégré par les opinions publiques.
Et est-ce qu'on y mentionne aussi les partis politiques qui, dans chaque pays, sont des partis qui sont porteurs du discours anti-européen, le Front National en France, mais également d'autres partis dans tous les autres pays d'Europe, par exemple?
On peut faire état, voilà, brièvement aussi, de cette idée qu'un certain nombre de partis européens, qui d'ailleurs ont une place de plus en plus importante hein, au Parlement européen, sont anti-européens. Il est intéressant de le mentionner à COP et montrer que voilà, le poids de ces partis grandit dans l'Union européenne.
Dans ce contexte de crise économique où il y a une sorte de repli systématique de chaque pays sur soi.
Tout à fait. Et puis il y a cette dimension aussi, c'est que si on prend le cas du Royaume-Uni ou même des relations franco-allemandes, la question, simplement que dans le contexte de mondialisation, les États sont en concurrence, même s'ils sont tous États membres de l'Union européenne, ils sont en concurrence les uns avec les autres. Donc ont potentiellement des intérêts divergents.
On n'évoque pas l'harmonisation fiscale, par exemple, qui est une question très importante de débat, etc., entre les pays européens, parce que là, sinon, on serait vraiment dans l'hyperactualité.
Oui, là, je pense que ça commence à devenir, d'une part, une question un peu complexe aussi pour les élèves, et presque trop d'actualité.
Merci Thomas Perel de cette composition, de ce point sur le chapitre consacré à l'Europe pour, je le rappelle, les terminales S à partir de 1992, mais pour les terminales E, S et L à partir de 1948, la construction et le projet européen. On va donner la parole à quelques-uns et quelques-unes des élèves que vous avez, donc de terminale S à l'ENC Blomé. Qui veut poser la première question rapidement, un point? Allez-y.
Oui, bonjour. C'est à propos du thème justement du rôle du citoyen dans l'Union européenne. Donc aux dernières élections législatives européennes en France, le Front National qui a remporté 25% des voix. Est-ce que finalement c'est synonyme d'un désintérêt...
Pas législative européenne, législative française.
Législative, pardon. Ouais. Est-ce que c'est un désintérêt finalement de la population pour l'Union européenne, ou alors c'est une volonté justement de se détacher de cette gouvernance supranationale et justement revendiquer la souveraineté nationale?
Alors, c'était d'ailleurs pas les élections législatives, mais les élections régionales en l'occurrence. Sur ce point, Thomas Perel.
Alors, je ne sais pas. La question, c'est lors des élections européennes, le Front National avait aussi fait des élections au Parlement européen. Le Front National avait aussi fait des scores relativement importants. Il faudrait reprendre et analyser le discours du Front National autour de la question de l'Union européenne. Là, pareil, dans une copie, c'est des sujets sur lesquels il faut être très prudent, délicat. On doit rester très objectif, rester ancré dans le sujet de la construction européenne. L'idée sur ce sujet. C'est que l'Union européenne et les scores du Front National font état d'une forme de...
D'opposition.
D'opposition à la construction européenne, à ses institutions, et de frilosité, de crainte, d'une certaine façon, d'une partie des Français face aux décisions prises par les institutions. C'est un mouvement qu'on retrouve, dans d'autres pays,
La représentativité de ces institutions par rapport à la question européenne, en particulier.
On voit les mesures imposées, notamment en Grèce, autour de... la question de la dette, ont provoqué chez les Grecs une certaine animosité vis-à-vis des institutions européennes.
Une autre question, mademoiselle.
Oui, bonjour. Faut-il aussi évoquer les normes et les directives européennes qui ont été menées tout au long de sa formation, par rapport aux des différentes institutions dans la compétition?
Alors là, la question des normes et des directives, c'est compliqué parce que ça doit être complexe. Et comme vous l'avez déjà expliqué, on n'a que 2 heures, c'est ça, quand on est en terminale S. Il faut déjà résumer la question des traités, la façon dont ils ont évolué pendant toute cette durée de temps. Ça doit être un peu compliqué, Thomas
Perel. Ça me paraît un peu compliqué d'évoquer ces questions-là. C'est des sujets qui sont abordés en classe de première en éducation civique, juridique et sociale. La différence entre normes, règlements, directives. Là, clairement, il ne me paraît pas indispensable, dans une copie de bac sur ce sujet, d'aborder ces notions juridiques vraiment précises. C'est pas indispensable. Ça n'apportera pas forcément grand-chose à la copie.
Quelle serait la tendance la plus avantageuse pour l'accueil des migrants dans l'Union européenne ? Fédéraliste ou plutôt unioniste ?
Ah oui, alors ça, c'est
une question d'actualité.
C'est
en
plus
fait.
Une question d'actualité qu'une question liée à une copie comme celle-ci. Je ne sais pas, Thomas Perel, est-ce qu'on peut l'aborder à la toute fin si on a construit sa copie sur cette tension permanente entre fédéralisme et unionisme, est-ce que dans la conclusion, on peut évoquer cette question-là par rapport à la question très récente et très particulière des migrants et des réfugiés.
Alors, évoquer la question des migrants pour souligner les difficultés, justement, de la gouvernance européenne, à s'entendre sur cette question, à prendre en compte toutes les particularités des États. On a vu les États du sud de l'Europe qui accueillent ces migrants, puis les États comme la Hongrie qui ferment leurs frontières. On peut l'évoquer sans pour autant
le relier aux idées
qui sont
fondatrices de l'Europe, parce que ça serait trop compliqué, j'imagine.
Je pense que c'est un peu compliqué. On n'a pas besoin de relier à cette idée de unioniste ou fédéraliste. La question serait trop complexe et plus difficile aussi d'avoir une réponse claire.
Merci à vous, Thomas Perel. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire-géographie à l'école normale catholique Blomé, l'ENC Blomé à Paris, que vous étiez avec vos élèves de terminale S qui sont ici. Merci d'être venu à toutes et à tous, d'avoir posé ces questions finales. Merci à vous, Séverine Attard, d'avoir préparé toute cette semaine, ainsi que ces portraits qui ouvrent tous les jours l'émission. Donc, nous avons eu Simone Veil aujourd'hui. Demain, vous nous proposer un autre portrait à propos de la mémoire de la guerre d'Algérie.
La guerre d'Algérie, donc Henri Alleg, qui est quand même celui qui avait publié la question sur la torture.
Et nous aurons demain Rémi Pavin, professeur au lycée Blaise Sandrin à Sevran, et ses élèves pour évoquer cette question de la guerre donc d'Algérie, mais également les mémoires de la guerre d'Algérie. Merci à vous et merci à vous tous. Merci. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marseille. Jacques Hubert était avec nous à la technique et Françoise Camard à la réalisation. Vous pouvez évidemment, comme toutes les autres émissions de la Fabrique de l'Histoire et de France Culture, écouter cette émission pendant 1000 jours sur notre site, la télécharger pendant 1 an après sa diffusion, les réécouter, les commenter. N'hésitez pas à les commenter. Je rappelle à ceux qui commentent également ces émissions, et en particulier ces émissions sur le bac, que ces propositions qui sont faites par les professeurs que nous recevons sont des propositions. Ce sont des propositions d'un plan, mais il y en a beaucoup d'autres, et donc ne vous braquez pas sur certains des plans qui sont proposés par les historiens.
Et puis peut-être dire aussi que c'est des propositions un peu idéales, c'est la très très bonne copie, voilà. C'est le 20 sur 20.
C'est le 20 sur 20 qui est mesuré dans cette proposition de plan. Merci à toutes et merci à tous.